Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Je reçois aujourd'hui mes invités Stéphanie Martel et François Babin qui nous parlent du Rockfest pour la santé mentale. Ce sera très intéressant d'entendre des invités dans quelques instants. On a à l'espresso et à l'espresso allongé le sujet de la psychologie de la publicité. Notre collaborateur Carl Boulian est de retour avec sa deuxième partie de chronique sur le trouble obsessionnel compulsif. Alors tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine. On commence en chanson avec Claude Bégin et la chanson s'intitule « Ma voiture volante ». Bienvenue à Folie Douce.
Vous êtes à l'écoute de Folie Douce, l'émission qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale.
Je suis en compagnie maintenant de mes invités, Stéphanie Martel. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Bonjour et François Babin. Bonjour François.
Salut, salut.
On est sur les lieux d'une conférence de presse pour la 6e édition du Rockfest Santé Mentale. Stéphanie, on t'avait reçu à l'émission il y a quelques années. Le festival était à ses premières années. Là, il a quand même vieilli, il a évolué, tout ça. J'aimerais ça que tu m'expliques ce que c'est le Rockfest pour la santé mentale.
Certainement. Alors, le Rockfest pour la santé mentale, c'est un organisme sans but lucratif Et on s'est composé uniquement de bénévoles. On n'a aucun salarié parmi nous. On organise des spectacles bénéfices et toutes sortes d'événements musicaux, surtout pour sortir les gens de l'isolement, les gens qui ont un problème en santé mentale, leur permettre de créer des liens. On donne aussi les ressources qui sont disponibles aux gens dans leur communauté, puisqu'il y en a beaucoup des ressources, mais souvent on les connaît pas. Donc, nous, on va se charger de donner ces informations-là aux gens. Donc, on sort les gens de l'isolement et avec le festival qu'on fait une fois par année, tous les fonds qu'on recueille de cet événement-là sont complètement versés à des organismes en santé mentale qui œuvrent dans la communauté.
Plus dans la région où vous faites le festival, qui est dans, on appelle ça, c'est la région ici, c'est la...
On est dans la région de Lanaudière.
Lanaudière, c'est ça.
Donc, il y a des organismes qui viennent de Lanaudière, mais on a aussi comme réseau ado qu'on aide, qui sont à travers le Québec.
Okay.
Ils se promènent dans les écoles secondaires pour faire de la prévention.
Okay.
Donc, c'est pas juste des organismes de Lanaudière, même que je vous dirais que le premier organisme qu'on a aidé, c'était l'organisme L'Ensoleillé qui était au lac Mégantic.
Okay.
C'est un petit peu comme ça que le festival y est né. Donc, c'est pas juste dans Lanaudière, mais c'est sûr qu'on est dans cette région-là. Et puis, on veut montrer aussi un peu aux gens que dans la communauté, il faut pas tout le temps attendre non plus que ce soit les différents gouvernements qui fassent quelque chose. Des fois, on peut faire quelque chose à l'intérieur même de notre communauté. C'est un petit peu l'exemple qu'on veut montrer aussi.
Oui, on va revenir aussi à l'expérience. J'aimerais ça voir un peu, tu nous l'avais raconté, mais c'est bien de le rappeler un peu pourquoi, dans le fond, qu'est-ce qui a démarré l'affaire. Mais François Babin, qui est auteur, compositeur, interprète, pourquoi tu t'impliques du côté du Rockfest pour la santé mentale?
Pourquoi je m'implique à côté du Rockfest?
C'est un administrateur, parce... en plus.
Nouvel
administrateur.
Oui, nouvellement dans l'équipe.
Félicitations.
Ben merci, puis fier de l'être en plus. Je te dirais, le pourquoi que j'ai embarqué dans l'équipe, c'est parce que l'équipe m'a choisi de base. Parce que j'avais les atouts, le cœur à la bonne place, l'énergie, les bonnes raisons de faire que je pouvais embarquer dans une équipe comme celle-là, tu sais, parce que on est là pour aider les gens, on est là, tu sais, le festival Rockfest, c'est une fin de semaine de rock hyper le fun, mais ça vient pas juste avec ça, ça vient pour une cause aussi.
Mm-hmm.
Ça vient en aide aux gens qui sont en santé mentale, qui ont de la misère et capables de passer à travers, d'assumer ou de faire en sorte de devenir quelqu'un qui voudrait être parce qu'ils croient pas qu'ils pourraient y arriver. Tandis que moi, je sais, j'ai déjà passé par là, j'en ai des gens, tu sais, on a tout du monde dans notre famille. On a au moins une personne par famille, de proche ou de loin, qui est atteinte de ça, puis que bien souvent, c'est plate, mais cette personne-là s'assume pas.
Mm-hmm.
Fait que ça nuit aux autres autour de soi, puis ça fait en sorte que ces gens-là vont aller se noircir ou se ternir dans un coin au lieu de se développer puis devenir une lumière, tu sais, aux yeux des autres, tu sais. Fait que le but d'arriver à... Puis moi, je fais de la musique. Fait que le rock que je fais, le rock que je me donne, puis tu sais, les messages que je veux passer à l'intérieur de là, bien, c'est les messages qu'on va faire, puis que Roger puis Steph donnent aussi. C'est le message d'entraide. Parce que tout seul, on peut rien faire. Mmh. Tu sais, moi, là, si je veux réussir à faire de la musique, faire du rock dans la vie, OK, oui, je pourrais avoir un band, mais ça prend une autre équipe plus grosse que ça.
Mmh.
Si on veut être capable de faire un festival avec le Rockfest, qu'on veut être capable d'amener les gens puis être capable d'avoir des bands qui vont un jour avoir des gros noms à ce festival-là, mais il faut que le festival prenne une ampleur, puis c'est là qu'on s'amène. Tu sais, on a commencé... Je dis déjà « on ».
Ben, t'étais là.
J'étais là, ouais, c'est bon. On a commencé en arrière d'une course des palettes, puis là, on est rendu à avoir un gros stage divisé en deux où ce que le soundman en avant, il est là avec son équipe qui va être sur le stage. Il n'y a personne qui va manquer de rien.
Mm-hmm.
Si les bands sont à l'écoute puis disent « OK, regarde, on a 15 minutes pour monter notre stage, mais on va le faire. » Mais c'est tout ça, c'est être capable de faire que l'idée est partie, on l'amène, on fait le jour, on a l'équipe à côté de nous autres. On amène l'équipe à surpasser parce que l'équipe aussi, dans l'équipe, là, c'est des gens, c'est pas tous des professionnels, comme Steph a dit, c'est tous des bénévoles.
Ouais.
Puis les bénévoles, bien souvent...
Il y en a beaucoup qui ont un problème aussi en santé mentale, eux autres même.
Fait que c'est ça.
En plus, on fait affaire avec des gens qui ont aussi une problématique. Cette fin de semaine-là, elle est très chargée émotivement pour tout le monde parce que, comme François s'en allait dire, les gens se surpassent pendant cette fin de semaine-là parce qu'ils sont confrontés à eux-mêmes souvent Fait que ça devient très thérapeutique. Mm-hmm. Il y a des gens qui vont... J'ai déjà entendu des gens me dire, ben moi, après être passé la fin de semaine au festival, mais ça m'a donné de l'énergie pour 6 mois. C'est quelque chose, ça. Puis quelqu'un ça, qui a de la misère à fonctionner.
Il vient puiser de quelque chose
l'énergie,
pour lui donner...
L'énergie, oui, l'énergie. Fait que, oui, c'est lourd, en fait, d'émotions. Mais ça fait du bien. Mm-hmm. Ça fait du bien.
Parce que le rock, tu sais, le rock, c'est intense, mais le rock, c'est rempli d'amour. On est tout du monde de cœur. Veux, veux pas, pour se donner comme ça pendant des fous. Tu sais, on fait une demi-heure de show, mais quand tu te donnes non-stop pendant 3-4 heures, puis tu sais, t'as pas le choix d'avoir le cœur à la bonne place. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que le rock faisait peur, puis le santé mentale faisait peur. Puis cette fin de semaine-là, et c'est le tout mélangé ensemble. C'est les gens qui ont une maladie mentale, c'est des gens qui ont peur des fois d'eux-mêmes. Fait que c'est du surpassement de soi, de la découverte de soi, puis c'est du partage incroyable. Ouais. Puis c'est une fin de semaine que si tout le monde amène son petit brin d'énergie, fait que ça allait, c'est une explosion de bonheur cette fin de semaine-là.
Ouais, tout ça fait tomber préjugés, dans le fond. Ouais.
Chacun a sa place parce que chacun peut apporter quelque chose. Encore là, c'est la base du message qu'on veut véhiculer. C'est pas parce que dans la vie, on a été écorché qu'on peut pas faire des bonnes choses,
ouais,
et
exactement,
des belles choses, et qu'on peut pas vivre des moments heureux.
C'est ça.
C'est important de le montrer. Il y a un message d'espoir à véhiculer là-dedans aussi. Parce que, je veux dire... Il y a beaucoup de monde, les préjugés vont dire, ben c'est ça, quelqu'un qui a un problème en santé mentale, c'est quelqu'un qui fonctionne pas. C'est pas vrai. Il y en a des gens qui sont capables de fonctionner, mais ça prend des outils.
Puis ils fonctionnent pas nécessairement au même rythme, puis c'est bien correct comme ça aussi.
Oui. On était bien pas juste, il était bien qu'ils savaient pas par où commencer.
Oui.
Parce souvent, tu sais, t'es tellement confus, tu sais pas par où commencer pour aller chercher de l'aide.
Quand on est seul, puis on est isolé, on a de la misère aussi. Nous autres, on n'attend pas que les gens viennent vers nous autres. On va aller les chercher.
Vous leur offrez quelque chose, vous dites, venez nous voir, puis on va faire quelque chose
ensemble. On la connaît, cette souffrance-là. Ouais. On sait comment qu'elle se véhicule. Si on est capable de sortir des gens, puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on le voit. Il y a des gens qui ne sortaient pas, qui n'avaient pas d'amis avant, qui étaient dépourvus, qui aujourd'hui, là, ils ont un cercle d'amis, ils ont des activités, ils ont des passions. Mais ça prend quelque chose pour allumer ça.
Ouais.
Puis c'est justement, c'est drette, tu voudrais dire. C'est banal. Aujourd'hui, ces gens-là ont les yeux qui brillent.
Ouais.
Tu comprends-tu?
Ça leur a allumé
autant
quelque chose.
Autant qu'il était noir, que c'est rendu que ça brille. C'est fait ça. Que,
la transformation est... Stéphanie, tu parlais tantôt un peu de l'origine, dans le fond, du festival, le Rockfest pour la santé mentale. Tu disais que l'événement de Lac Mégantic a comme réveillé quelque chose chez Roger puis chez toi, qui est deux créateurs. Là.
Quand moi puis Roger, on s'est rencontrés, on était encore... je vous dirais, on était quand même dans une certaine souffrance. Mais on s'est reconnus dans cette souffrance-là, puis on s'est beaucoup respectés. Donc, on a été capable chacun de cheminer là-dedans tout en continuant à être un couple. Et puis, ce qu'on avait vécu respectivement, on savait qu'à travers toute cette souffrance-là, on ne pouvait pas laisser ça dormir dans un tiroir.
Ouais.
Tu sais, on dit souvent, là, il faut trouver un sens. Et puis, malgré que ça faisait plusieurs années, moi, j'avais toujours pas trouvé le sens. Et ça me déchirait. J'avais besoin de trouver le sens de ce que j'avais vécu. Mais on savait pas quoi faire. On était juste deux petites personnes comme ça. Tu dis, ben moi, j'aimerais ça faire quelque chose un jour avec ce que j'ai vécu ou redonner. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Donc, on avait pensé faire quelque chose, mais quoi? On savait pas trop comment s'y prendre. Et le temps a passé. Et là est arrivée, en 2013, la tragédie du lac Mégantic. Bon, moi, mon conjoint Roger, il a vécu un traumatisme avec un ami qui a perdu dans le métro. Donc, automatiquement,
le suicide.
Et puis, c'est venu le chercher tout de suite, moi aussi. Et c'est là que ça l'a ravivé une certaine douleur qu'on croyait être partie. Mmh. Parce que là, on s'est vu dans une population. Notre mal qui était à l'intérieur de nous, on le voyait se répandre, mais à la vitesse d'une population. Puis là, on s'est dit, bien, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et de là, l'idée de dire, bon, bien, on va faire ce qu'on peut faire. pas grand-chose, mais on va partir de là. Et c'est là qu'on a eu l'idée de faire un party dans le cours, et ça a commencé comme ça. Puis, à partir du moment que là, on a eu de l'argent de ramasser, on n'avait pas grand-chose, à peu près 1000 $ on a été remettre ça à l'organisme qu'on avait choisi au préalable. Et puis, on a été discuter toute l'après-midi avec ces gens-là. On leur a expliqué que ce qu'on avait vécu, nous autres, un petit peu, que c'est pas quelque chose qui part, qu'on se débarrasse, mais qu'on est capable quand même de vivre avec ça. Donc ça, ça a donné beaucoup d'espoir à ces gens-là. Puis on n'avait pas vu cette partie-là encore. Ouais. C'est quand on s'est rendu auprès de ces personnes-là, qu'on a discuté avec eux, qu'on a vu l'échange, comment qu'on pouvait apporter aux autres aussi, juste avec notre propre expérience. C'est un petit peu de là, là que ça a parti, ouais, de dire, OK, là, c'était une fois par année, bien là, on élargit, on rouvre la porte.
C'est toujours à peu près dans, toujours au début août, je pense, hein, au mi-août à peu près, à chaque année, le festival. De toute façon, on va donner des coordonnées tantôt, là, bientôt.
En fait, deuxième fin de semaine du mois d'août.
Toujours,
parce que... Oui, actuellement, c'est à peu près dans ces
puis on est au courant en suivant vos soit pages Facebook ou autres. On sait qu'est-ce qui se passe, puis on le sait à l'avance, puis on est capable de s'organiser, parce qu'il y a du camping qui se fait sur place, puis tu sais, les gens passent un week-end. Là, fait que puis il y a une journée familiale aussi, ça, c'est,
oui,
c'est
la bien journée
intéressant.
Du dimanche. Dès la première année, on a voulu instaurer ça, parce qu'on veut que notre festival soit accessible à tout le monde.
Ouais.
On veut qu'il soit accessible à tous les moyens aussi. Il y a beaucoup de personnes en santé mentale qui ont peu de moyens financiers. Si on fait un festival puis que les gens ne peuvent pas venir, ça ne donne rien. On ne va pas chercher nos gens.
Il faut garder leurs enfants. Ça commence à être compliqué.
Exactement. Ça coûte de l'argent. Exactement. Faire garder les enfants.
Tu
ne
peux pas y aller avec la tête en paix. Là, tu vas en famille. Ouais. C'est le fun.
Ce qui arrive aussi, c'est que les enfants font partie de nos vies. J'en avais des enfants, moi aussi. Il faut apprendre à fonctionner aussi dans ce cadre-là.
La santé mentale, c'est le fun d'éduquer les enfants aussi. Ils sont capables de comprendre. Puis si on leur apprend jeunes, ils vont peut-être justement dédramatiser l'affaire, puis ça va peut-être être moins compliqué pour les générations futures.
On est les guides de la société.
Oui.
Fait que si on guide la société à devenir meilleur puis plus compréhensif sur l'ouverture d'esprit envers tout le monde, tu sais, parce qu'il n'y a pas juste une sorte de gens qui existent.
Ouais.
Il existe plusieurs sortes de gens. Fait qu'il faut être capable d'amener nos enfants justement à découvrir toute cette société-là.
Oui, exactement.
Fait que c'est comme ça que tu fais grandir les enfants.
Ouais,
pas juste devant un écran ou devant un jeu vidéo ou whatever. Là.
En terminant, écoute, ça passe vite. C'est toujours intéressant, mais pour en savoir plus ou même pour aller vous voir ou aller participer, comment on cherche Rockfest pour la santé mentale?
Rockfest Santé mentale sur la page Facebook. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Twitter ou sur le site Internet aussi au www.rockfestsantémentale.org.
Merci beaucoup, Stéphanie.
Merci.
Martel, cofondatrice puis administratrice et le nouvel administrateur, François
Babel. Que oui!
Merci beaucoup.
Bonne continuation. C'était le fun.
Merci.
Merci.
Très, au revoir. Très, très agréable.
Au revoir.
On va manquer notre coup. On va faire fall ball. On va faire pétaque. On va manquer notre coup. On va se faire pogner. Puis on va dégoûter. La police va nous voir. On va se faire avoir. On va manquer notre coup. C'est mieux de pas faire les fous. C'est mieux de rester tranquille. On va manquer notre coup. Dérange rien, grouille pas. Fais pas d'affaires comme ça. Ou bedon, moi je m'en vais. C'est rien qu'un paquet de troupes. On va manquer notre coup. Ils sont deux fois plus gros. Ils sont deux fois plus forts. On va manquer notre coup. Oh, ça va tourner mal. Qu'est-ce que va dire ma femme? Ah ouais, fais donc comme moi. Pépi dans tes culottes. On va manquer notre coup. 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 The shit will hit the fan. On va tout être beurré. On va manquer notre coup. Restons chacun chez nous. On mange pas trop de misère. On en mange pas tant que ça. On va tout perdre nos jobs. On va manquer notre coup. J'aime mieux me faire écœurer que de mourir de faim. On va manquer notre coup. On va manquer notre coup. On va manquer. On va manquer notre coup. On va manquer. manquer notre coup. On va manquer notre coup. Se faire maganer, se faire battre à zéro. On va tout être blessé, puis on va tout souffrir. On va manquer notre coup, on fait mieux de pas y aller. Restons tous plantés là, on va manquer notre coup. C'est mieux de se fermer à gueule, c'est mieux de pas y faire choquer. Ils peuvent devenir méchants, c'est mieux de faire attention. On va manquer notre coup, on va manquer notre coup, on va manquer notre coup. On va faire folle-ball, on va faire pétac, on va manquer notre coup.
Si vous voulez participer à Folie Douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604.
C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Bonjour Ghislain Malo.
Bonjour.
Aujourd'hui, le sujet, Pierre, que tu nous amènes, la psychologie de la publicité.
Eh oui.
Il y en a long à dire là-dessus, je pense. Depuis des décennies, d'ailleurs,
qu'on s'en a. Mais oui. Et oui, c'est sûr que chez ceux qui font la publicité, on utilise beaucoup de psychologie. On doit sûrement aussi faire face à des psychologues aussi, tu sais, qui ont fait leurs études là-dedans.
Ah oui, c'est ça. Oui,
mais il y a toujours des experts qui codifie tous les messages. Là, ouais.
Il faut que les publicités donnent l'émotion. Ouais. Là, pas du temps, il faut que ça fasse...
Il y a tellement d'argent qui est en jeu. Ouais. Hein.
Même dans les photos des candidats politiques, il faut que ça ait la bonne couleur, la bonne teinte, le bon linge.
Ouais. On en avait déjà parlé, d'ailleurs. Mais je vais vous lire un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « L'influence de la publicité sur les consommateurs ». C'est sur le site dynamicmag.com. Alors, on nous dit que c'est le besoin qui reste à l'origine de la majorité des actes d'achat. Le processus d'achat lié au besoin engage une certaine part de rationalité. Les consommateurs qui vont acheter un produit ou un service n'ont toutefois pas nécessairement de besoin envers celui-ci à la base. Un des rôles de la publicité est de créer le besoin.
Oui, ça dépend. C'est sûr, si ton four brise puis t'en as pas chez vous... Là, c'est sûr que tu as un besoin.
Mais des vrais, c'est vrai, effectivement, ça arrive souvent que les gens n'ont pas vraiment besoin.
Non, mais on va finir par l'acheter.
On finit par l'acheter. Ouais.
Des personnes qui n'auraient pas forcément besoin d'un produit ou d'un service, au départ, sont ainsi amenées à avoir l'impression qu'elles en ont tout de même besoin. La publicité crée un sentiment de besoin par l'envie. En donnant envie aux consommateurs, la publicité fait naître chez lui une sensation de besoin. C'est de là que va, dans certains cas, émerger chez ce consommateur l'acte d'achat. En termes de communication, la publicité a pour objectif de délivrer un message construit de manière spécifique. Ce message doit être clair, synthétique et argumenté en vue de convaincre le public auquel il s'adresse. Surtout, il est primordial que ce message soit compréhensible afin qu'il soit compris par un maximum de personnes. Des études démontrent que la publicité, après 4 visualisations, fait retenir chez ses téléspectateurs 50 % des éléments dans la semaine qui suit et 30 % dans les 2 mois suivants.
C'est pour ça que beaucoup de commanditaires dans certaines émissions achètent les mêmes publicités, des fois à chaque bloc de 15 minutes pour qu'on s'en rappelle.
Oui, il y a des réseaux là, où l'on répète les mêmes publicités 5 fois à l'heure.
Oui, puis même quand elles ne sont pas particulièrement créatives et bonnes.
Oui, ça c'est un autre débat quasiment. Ça. Alors, je continue. Concernant l'aspect visuel, comme c'est notamment le cas pour les logos des marques, vus plusieurs fois, ils sont d'autant plus facilement reconnaissables pour le public cible. Plus un logo se montre original, plus il aura de chances d'être plus identifié rapidement. Cela constitue un véritable moyen de fidéliser le consommateur plus tôt.
Oui, puis il y a aussi sur ce qu'on appelle le paquet, faut pas mettre des couleurs des fois qui sont pas correspondantes à un produit. Ouais.
La nourriture, un certain type de couleur, d'autres produits.
Ou c'est trop criard, ça fait mal aux yeux.
Mais il y en a qui veulent faire mal aux yeux, je pense. La publicité promue des marques et offre aux consommateurs la possibilité d'appartenir à un certain groupe social. Par exemple, l'influence des marques vestimentaires connaît un fort impact chez les jeunes, notamment chez les adolescents. Ces derniers voient en cela un moyen d'identification, d'acceptation et d'appartenance à un certain groupe social. Ils constituent une cible très prisée des marques car ils ne se détachent pas de la société de consommation, du moins dans la plupart des cas.
Oui, c'est l'exemple parfait, c'est les Running Chew.
Oui, c'est un exemple.
Oui, les marques veulent vraiment se démarquer puis veulent vraiment que les gens aient un attachement.
Parce que là, tu vas appartenir à un groupe social.
Ben oui. Ouais.
Les publicités alimentaires se placent comme les principales publicités. Ce sont celles qui influencent le plus le consommateur. La moitié des publicités concernent un produit de nature comestible. Dans une logique concurrentielle, elles se veulent toujours plus appétissantes les unes que les autres. De plus en plus attirantes et souvent glissées entre les films, elles se montrent très persuasives. L'alcool est aussi très vu par les jeunes au travers de publicités incitant à boire de l'alcool. La publicité peut alors dévoiler des aspects négatifs et détient un côté dangereux, car elle peut se révéler néfaste pour la santé. La publicité peut en effet inciter à consommer les mauvais produits. Après le domaine alimentaire, s'ensuit le domaine matériel, très présent dans la publicité. Il s'agit de la deuxième catégorie de publicité la plus diffusée à la télévision, à la radio et dans les journaux.
Particulièrement les véhicules.
Oui, beaucoup les automobiles, oui. Le jus de la concurrence en ressort très clairement. Chaque marque a pour but de vendre son produit et va miser sur l'aspect qualitatif ou peu onéreux. Enfin, la publicité profite d'un trait de personnalité présent chez de nombreuses personnes, la volonté de plaire. En vantant les mérites de tel ou tel produit, la publicité suscite l'envie chez le consommateur qui, animé par son désir de plaire, souhaite acheter ce produit. Bien qu'il ne soit pas toujours conscient d'être exposé à ces publicités, les consommateurs se voient d'autant plus impactés, notamment par rapport à leur comportement de consommation. Les publicités dites implicites détiennent une plus forte influence sur les consommateurs qui n'ont pas conscience d'être affectés. Lorsque les consommateurs voient leurs pensées et jugements affectés, et ce de manière inconsciente et donc involontaire, on parle de contamination mentale. Mais j'y reviendrai un peu plus tard.
Oui, beaucoup de choses à dire. Donc, la psychologie de la publicité. Merci Pierre, merci Ghislain.
Merci.
À l'équipe de Folie Douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale.
C'est avec plaisir que je reçois à nouveau Carl Boulian. Bonjour Carl.
Bonjour.
Bonjour. On a parlé très récemment à l'émission du trouble obsessionnel compulsif, la chronique, ta première chronique que tu as fait. On avait promis aux gens qu'on viendrait justement avec la deuxième partie, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mm-hmm. Juste peut-être rappeler un petit peu ce que c'est le trouble obsessionnel compulsif.
Oui, donc le trouble obsessionnel compulsif qu'on appelle TOC également, il y a deux mots, il y a obsessionnel, compulsif. Donc les obsessions, c'est un peu des pensées qui sont incontrôlées, qui sont répétitives. Dans le fond, la personne ne contrôle pas ses pensées. C'est des choses qui sont pas, souvent ne sont pas réelles. Il n'y a pas de danger réel, mais c'est des pensées qui reviennent. Au niveau des compulsions, c'est plus le geste. Dans le fond, c'est de répéter des actions. Qui va faire, dans le fond, le but de répéter des actions, c'est pour faire diminuer l'anxiété, pour éloigner les pensées irrationnelles.
Mm-hmm.
Fait qu'au niveau des compulsions, c'est plus dans cette optique-là.
Ouais.
C'est sûr que ça peut affecter grandement la personne parce que ça vient à un certain moment où ça peut être très handicapant au niveau de sa vie quotidienne, à différents degrés, ça dépend toujours de chaque personne. Là.
Ça peut l'empêcher carrément de fonctionner.
Oh, oui. Exactement. Il y en a qui fonctionnent quand même bien, ils ont un travail, ils ont des relations et tout ça, mais il y en a que justement, ça vient tellement affecter ce côté-là que...
J'ai entendu qu'il y a un certain âge, surtout en jeune âge, c'était un peu normal d'avoir ça. Tu sais, les jeunes enfants, souvent dans leur développement, souvent ils ont comme, je sais pas, ils passent par une passe où ils vont avoir à conjuguer avec ça, mais qu'à un moment donné, ça va se tasser, là. Je sais pas si c'est...
Tu vois ça, je sais même pas.
C'est ce que j'avais entendu.
Faudrait demander à un psychiatre, parce que je suis quand même pas le professionnel là, qui se connaît là-dedans. Là.
Mais l'idée, c'est ça. Faut pas que ça devienne handicapant. Faut vraiment que la personne se dise... d'aller voir une fois ou deux, si notre porte est barrée, bon, ça peut arriver, on est distrait, ces choses-là.
Quand ça fait 20 fois que tu y retournes.
Ça, c'est une autre histoire.
Puis c'est peut-être là le moment d'aller consulter.
Exactement. On avait parlé aussi, ce qui était intéressant, puis on avait promis de poursuivre, on avait parlé de plusieurs personnalités connues, des sportifs, surtout qui ont des habitudes, on pourrait peut-être appeler ça des obsessions. Je ne sais pas si ça va jusqu'à un trouble obsessionnel compulsif, mais des fois, ça peut paraître de cette façon-là.
Il y en a que ça a l'air à s'en rapprocher.
Oui. Puis le prochain que tu vas nous parler, moi, je l'ai bien regardé, puis effectivement...
Moi, j'étais plus jeune, peut-être, là, mais effectivement, il est connu, Patrick Roy.
C'est très connu pour les mille et un tics et mille et une obsessions.
Oui. Ben lui, ce qui était décrit comme étant sa superstition numéro un, c'est qu'il évitait de toucher les lignes. Dans le fond, c'est que s'il touchait une ligne, ça risquait d'y porter malheur.
Quand il faisait le tour, disons, de la patinoire, il fallait qu'il passe par-dessus la bleue, la rouge, etc.
Oui, puis on disait qu'il parlait à ses poteaux, mais que c'était vrai finalement. Souvent, il se collait puis il parlait un peu à son poteau.
Puis il y avait mille et un tics. Je sais pas si Casso venait de là ou c'est
un champ. C'est juste que son casque, je me souviens, lui, son cou, tu sais.
Exactement.
Il y avait quelque chose en lien avec ça.
Il y avait beaucoup de tics, mais en tout cas, il était bon. Fait que ça a sûrement marché.
Ben pour lui, ça a fonctionné sûrement, là, écoute, avec la carrière qu'il a eue. Il y a un joueur de baseball, Wade Boggs, je ne sais pas si ça dit quelque chose.
C'est
un ancien joueur des Red Sox, troisième but. Il est à retraite. Lui, tout au long de sa carrière, il a mangé que du poulet à la veille des matchs. Dans le fond, c'est un peu pour ça qu'il a été surnommé le Chicken Man.
C'est
quelque chose. J'espère juste, par contre, c'était pas du PFK, parce qu'en tout cas...
Il y avait-tu une bonne taille, parce que ça, c'est en mangeant du
poulet?
Écoute,
je me souviens d'avoir des cartes de baseball. Il avait un visage quand même un petit peu rond, mais il avait quand même pas l'air très... Non, à comparer à Cecil Fielder, il avait rien à voir avec ça.
Ça devait être du poulet qui était quand même assez bien, là.
Oui, mais j'espère pour lui que c'était pas du PFK.
Non.
En tout cas. C'est une autre histoire. On a Cristiano Ronaldo.
Très connu, un des joueurs de soccer les plus connus de la planète.
Exactement. Lui, vraiment, là, c'est tout qu'un rituel. C'est d'un, à chaque début de partie, il y a une coupe de cheveux, une nouvelle coupe de cheveux. Il occupe toujours le même siège dans l'autobus. C'est-à-dire que lui, c'est le siège de droite de l'avant-dernière rangée derrière le conducteur. Ça, c'est un siège qu'il faut qu'il s'assoie, donc il est réservé, j'imagine.
C'est son siège.
Personne qui doit s'asseoir là. Si quelqu'un s'assoit là, je pense, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive.
Ça va pas bien.
Il met aussi son équipement de soccer dans un autre précis, dans le fond. Puis il mouille son peigne, puis il brosse ses cheveux vers le bas, puis il se donne un dernier coup d'œil dans le miroir du vestiaire avant de sauter sur le terrain. Ça, c'est un autre rituel.
C'est pour ça qu'il a une tête toujours bien peignée, je comprends.
Ah, tout est parfait.
Avec un coiffeur avant chaque match, c'est certain que...
Non, il prend soin de lui, mais on voit que c'est quand même quelque chose d'assez
obsessif.
Il y a aussi Sidney Crosby,
ouais,
le kid.
Probablement le plus grand joueur de hockey, à mon avis.
Actuellement, oui, je pense que oui aussi.
Et peut-être de tous les temps, en tout cas, on n'est pas loin.
Oui. C'est que lui, tout le monde sait, en tout cas, ceux qui suivent le hockey savent qu'il porte le numéro 87.
Ouais.
Il est né aussi le 7 août 1987, là peut-être le numéro 87. À ce qui paraît, quand il a signé son plus récent contrat, il a signé pour un contrat de 8,7 millions.
Oui, c'est ça. Effectivement.
Il paraît qu'il y a un lien avec le 87 de 8,7 millions.
Je pense
millions,
bien.
Là.
Puis il l'avait pris sur plus d'années que ce qui est permis maintenant, parce que c'était permis dans le temps. Là.
Ah, ben tu vois, t'en sais plus que moi, je pense.
Je pense qu'au lieu d'être un 8 ans, je pense que c'est plus long, mais il est allé avec 8,7 millions. Exactement. Je sais pas, la prochaine fois, est-ce qu'il va doubler?
Je sais pas, mais il refuse d'appeler sa mère aussi le soir des matchs. À ce qui paraît, ça l'inciterait à se blesser. J'imagine qu'à un moment donné, que sa mère l'a appelé puis s'est blessé, fait qu'il a dit « Bon, ma maman, c'est fini. Là. On se parle plus avec toi. » Il refuse aussi d'utiliser le ruban des autres joueurs pour taper son bâton.
Ouais.
Il n'y a personne qui peut toucher à ses bâtons, à part lui.
Même pas les...
Pas les préposés.
Donc, ah non?
Il y a juste lui qui peut toucher à ses bâtons. Puis chaque jour de match, exactement à la même heure, il mange une tartine au beurre d'arachide et avec de la confiture. Tout le temps.
Ça, c'est un rituel.
C'est un rituel. Ça se rapproche quand même un peu de Ronaldo.
Oui, puis on peut pas dire non parce qu'il performe. Donc,
ben lui aussi,
on touchera
c'est
pas
dur de dire non, c'est quasiment le meilleur joueur au monde. Là.
C'est
fait
ça, exactement.
Bon, mais ça fonctionne. On va regarder la recette de Ronaldo.
Je croyais pas qu'il était... Mais le contrat, je l'avais remarqué que c'était ça, mais je croyais pas que c'était ça allait jusqu'à ce point-là.
Il y a un ancien joueur de tennis, Goran Ivanišević. Lui, lorsqu'il gagnait une partie d'un tournoi, le lendemain, il essayait de vivre dans, comme la veille. C'est-à-dire que, étant donné que sa journée de la veille lui avait porté chance, il allait même jusqu'à reparler aux mêmes gens qui avaient parlé la veille pour essayer de recréer finalement la même journée.
Il se recréait le jour de la marmotte lui-même.
Exactement. Le jour de la marmotte, oui, c'était ça dans son cas.
Ouais.
Fait que c'est sûr que des gens qui l'ont côtoyé la veille, ça trouvait ça un peu bizarre.
Il me semble que tu m'as dit ça hier. Tu sais, des fois, on a l'impression d'un déjà vu, mais là, c'était vraiment ça.
Oui, oui. On a-tu le temps pour un petit dernier de ce côté-là?
Oui, puis après ça, on va quand même amener des points sérieux, un petit peu plus sérieux. Ouais.
Effectivement. Ouais. Le dernier, Kevin Rumberg. Pas grand monde, j'imagine que ça leur dit quelque chose. Non. Il a joué juste 43 matchs dans les majeurs. Ah. Fait que ça n'a pas été une carrière très glorieuse dans son cas. Si quelqu'un le touchait, il devait le toucher en retour. C'est-à-dire que s'il y a un joueur qui le touchait, exemple, pendant une partie, il pouvait aller jusqu'à courir derrière lui pour jusqu'à la fin du match, mais il fallait qu'il touche. Il refusait aussi de tourner à droite. Pour tourner à droite, il fallait qu'il fasse un 360 sur lui-même. Mais tu sais, je jouais à ça avec mon fils, mais pas pour tourner à droite, mais je parle de toucher, là, touch, le dernier qui touche à l'autre. Mais lui, imaginez en plein match. Là.
Ça, c'est surtout si les gens le savent et ils le surveillent, ils vont dire, là, ils vont comprendre, mais les gens qui savent pas trop.
Tu sais, je me mets dans l'équipe adverse. Je fais juste exprès de l'effleurer un petit
peu,
sachant que ça va tout
pour les jouer dans la tête, c'est
exactement.
Ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de bataille et des choses comme ça. Même au hockey, là, il y avait eu des problèmes comme ça où les gens avaient des rituels puis on voulait casser leur rituel pour leur jouer dans la tête.
Exactement, on a vu ça dans le passé au hockey, justement. Ça causait justement des altercations là, à cause de ça.
Exactement.
Ouais.
Donc, si on parle maintenant des complications, au niveau, il nous reste peut-être un 4-5 minutes, on a quand même du temps, Carl, sur le trouble obsessionnel compulsif. Donc, qu'est-ce qu'on peut nommer finalement comme complication?
Ben écoute, c'est sûr que là, on s'est bien amusé, mais ça reste que pour la personne qui le vit au quotidien, ça peut quand même devenir très envahissant. Il y a des complications. Si c'est pas traité ou c'est pas abordé, ben ça peut se diriger vers, mettons, la dépression. Ça peut aller jusqu'à avoir une dépression majeure.
Ouais.
Ça peut aussi occasionner des problèmes de dépendance, que ce soit par l'alcool, les drogues. Dans le fond, c'est une façon que la personne essaie, malgré elle, on dirait, de s'auto-médicamenter par des moyens comme ça, mais ça peut mener vers ça aussi, la dépendance. Il y a aussi tous les conflits qui peuvent arriver avec les proches, la famille et tout ça. Ça peut occasionner beaucoup de pertes également. Là.
Ça peut taper sur les nerfs là, de vivre avec quelqu'un qui est sans arrêt.
Ben exactement. Là, j'imagine que ce soit pour la conjointe ou pour un ami de la famille. Ben justement, la personne qui a des rituels, qui a des compulsions, ça peut être difficile pour les gens qui l'entourent au quotidien aussi à vivre avec ça.
Ils n'arrivent pas à comprendre souvent parce que ça reste une problématique, tu sais, c'est dur à comprendre.
Effectivement,
au quotidien.
Mettons exemple, justement, quelqu'un qui il faut qu'il aille acheter quelque chose à chaque fois qu'il y a une obsession ou écoute, le moment donné, l'argent descend aussi. Là, fait que, ça peut être juste un exemple comme ça.
Ça a des impacts, oui.
Ouais. Quand consulter, on va arriver justement à. Quand c'est le moment de consulter, c'est justement comme on a dit plus tôt, c'est quand le fonctionnement devient trop difficile au quotidien.
Mm-hmm.
C'est quoi que les traitements qui sont recommandés par les professionnels? Ben, il y en a deux finalement. Il y a la psychothérapie, puis il y a la médication. Pour ce qui est de la psychothérapie, c'est souvent la thérapie cognitivo-comportementale qui va être, qui a été nommée comme étant celle qui était la plus efficace.
Mm-hmm.
Dans le fond, le but de ça, c'est un peu de modifier les pensées et les comportements de la personne, puis de les remplacer par des pensées qui sont plus appropriées. Pour essayer de changer la façon de penser de la personne, puis d'avoir des mécanismes qui vont être capables de, par elle-même, finalement.
J'imagine qu'il y a des causes aussi. Tu sais, si les gens sont capables de venir mettre le doigt sur quelque chose, j'imagine qu'ils peuvent peut-être changer soit quelque chose qui les stresse dans leur environnement.
Puis des fois, c'est du stress. Ça peut être du stress chronique. Dans le fond, c'est ça, c'est des troubles anxieux, puis ça vient ingérable. Fait que peut-être pour ça aussi, j'imagine qu'il nomme aussi la médication qui fait qu'elle va venir aussi, d'une certaine façon, corriger ce que le mental n'est pas capable de faire, finalement.
Ça devient comme une réaction de un peu de protection. Il y a quelque chose qui se passe, donc il y a une réaction involontaire, mais c'est une réaction pareille à quelque chose qui est vécu.
Un stress qui est là, puis des fois, il n'est pas identifiable par la personne, c'est inconscient. Là, fait que c'est ça aussi, la médication, au niveau les deux traitements par médication qui sont utilisés, souvent, c'est les antidépresseurs et les anxiolytiques.
Qu'est-ce que les gens devraient faire quand on dit consulter? Est-ce que ce serait d'aller voir un médecin généraliste? Est-ce qu'ils sont aptes à pouvoir reconnaître que c'est ça?
Bien, souvent le chemin, oui, c'est ça. La première personne à consulter, souvent, c'est le médecin de famille, d'en parler avec le médecin de famille. Puis suite à ça, il y a la plupart du temps, il y a une référence qui est faite. C'est sûr que le médecin, des fois, peut commencer un traitement, là, mais s'il n'est pas certain, la référence peut être faite vers un psychiatre.
Okay.
Dans le fond, soit que le médecin fait la référence lui-même ou qu'il va donner la référence papier à la personne, puis c'est envoyé souvent vers le CLSC de son territoire parce qu'il y a un guichet d'accès en santé mentale.
Okay.
Dans le fond, c'est eux qui vont recevoir la référence médicale puis qui vont assigner à ce moment-là selon les services qui vont être demandés par le médecin. Si c'est un suivi psychologique ou encore s'il y a besoin d'une évaluation par un psychiatre, ça va passer par le CLSC, mais il faut au préalable avoir vu le médecin de famille.
Et ça, dans la majorité des CLSC, à ta connaissance, il y a un guichet de santé mentale?
Autant pour les enfants, les adolescents que pour les adultes. Ouais. Dans le fond, ils appellent ça le GASMA pour les adultes, ce qui veut dire guichet d'accès en santé mentale adulte.
Okay.
Puis pour ce qui est des jeunes, c'est le GASMJ. C'est le guichet d'accès santé mentale jeunesse.
OK. C'est des guichets d'accès. C'est bon à savoir.
Oui. Fait que c'est ça. C'est ce qui mène finalement à une consultation au niveau santé mentale.
Et si on veut chercher des ressources, peut-être, parce que pour savoir si effectivement il s'agit de troubles obsessionnels compulsifs, je pense que tu as des références à nous donner.
Oui, il y a des ressources qui sont intéressantes. Il y a la ressource Revivre, qui est dans le fond l'association québécoise de soutien aux personnes là, qui souffrent de troubles anxieux, dépressifs, bipolaires. Sur leur site Internet, ils ont quand même beaucoup de documentation. Ils ont beaucoup de services aussi qu'ils peuvent offrir. Donc, allez consulter sur le site Revivre. C'est vraiment intéressant. Puis aussi, je pense qu'ils ont des lignes d'écoute. Ils ont plein de services. Ça, c'est une ressource qui est très intéressante. Il y a Phobie Zéro aussi, qui est une ligne d'écoute. Je peux donner le numéro si vous voulez. Oui. C'est le 1-866-922-0002. Dans le fond, 1-866-922-0002. Phobie Zéro. Puis sinon, il y a l'ordre des psychologues si on veut consulter des fois en privé.
OK, il y a quand même beaucoup de ressources.
Il y a beaucoup de ressources. On peut faire des recherches aussi sur le web.
Merci beaucoup, Carl, d'avoir été des nôtres. Et puis un beau sujet, troubles obsessionnels compulsifs. Donc, à la prochaine.
Le TOC.
Oui, le TOC. C'est plus facile à dire, le TOC.
Oui.
Merci.
Salut, bye-bye.
À la prochaine.
Bye-bye.
Je sais où tu mets ton argent. Combien vaut ce téléviseur et cette robe de créateur? Toi tu t'en fous, c'est le bonheur. Je connais très bien tes enfants, ils pourraient m'appeler maman. Je connais très bien tes amants. C'est un peu grâce à moi aussi. Grâce à moi qu'elle t'a réussi. La vie, la vie, la vie, la vie que tu vis. La vie, la vie, la vie, la vie sans souci. Mon cul ressemble presque au tien dans cette culotte de satin. Et tiens bien sur moi ton parfum. C'est facile d'être jolie avec toutes ces crèmes de nuit. Je ferais tellement mieux de ta vie. Je sais des choses sur ton mari. Moi je lui ferais passer l'envie d'aller coucher dans d'autres lits. Je pourrais la vivre mieux que toi. Je pourrais la vivre sans toi. La vie, la vie, la vie, la vie que tu vis. La vie, la vie, la vie, la vie sans souci. Mmh.
êtes branché sur Folie Douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé. Pierre Laporte, donc le sujet que tu as proposé aujourd'hui, entamé plus tôt, la psychologie de la pub.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup de psychologie derrière la publicité.
Une industrie tellement présente à tous les niveaux. Là.
Oui, il y a des fois même des annonces qui sont trop belles, trop réussies, trop léchées, et les gens perdent le message.
Peut-être, oui. Mais on a toujours l'impression que nous, on n'est pas affectés. Hein,
par tout le monde l'est.
Alors, je vais juste terminer l'article que j'avais commencé, qui s'appelle « L'influence de la publicité sur les consommateurs » sur le site Internet Dynamic Mag. Alors, on nous dit en conclusion, chez le consommateur, la capacité d'analyse et de raisonnement peut parfois se substituer par des envies, des intuitions et des sentiments. Les enfants détenant une grande influence sur les achats de leurs parents sont également ciblés. La publicité en profite d'autant plus et voit en eux une cible de choix par leur ignorance et leur vulnérabilité.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pub de jouets pour enfants à la télé.
Ça prendrait un autre espresso pour parler des lois sur la publicité. Oui. Et on nous dit, en conclusion, les consommateurs achètent les produits annoncés par la publicité alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. La publicité détient ainsi l'art d'acheter les consommateurs.
Sauf que la publicité pour enfants, tu disais, mais des fois, il y a des émissions complètes qui remplacent la publicité. T'sais, ils vont faire une émission genre Disney ou peu importe.
Oui, oui, mais donc, ils vendent le canal, le point.
Mais ils ont trouvé une façon de contourner un peu les
lois. Mais il n'y a pas de jouet à part, je nommerai pas qu'une compagnie de petits blocs qui a fait des films avec son nom là, ces derniers temps.
Mais c'est comme ça qu'ils peuvent rejoindre.
Mais c'est pas les blocs Lego là, que tu parles.
C'est
pas mal ça.
Regarde
si on le nomme. Maintenant, dans un autre article sur Internet qui s'appelle « Publicité sur Internet, une trace profonde sur le psychisme », des chercheurs marseillais ont montré que les effets des publicités sur Internet persistent pendant 3 mois dans notre cerveau. Comme disait l'autre article, au fond, écrit par M. Sébastien Boller sur le site cerveauetpsycho.fr. Combien d'heures passez-vous chaque jour sur Internet? 3 heures en moyenne. Que reçoit votre cerveau comme information lorsqu'il est devant son écran? Les contenus des recherches que vous effectuez ou des messages que vous lisez, mais ce n'est pas tout. Pendant que notre conscience est focalisée sur un texte ou une information, d'autres images et logos apparaissent sur les côtés et s'impriment sur notre rétine en vision périphérique. Ces informations sont reçues par le cerveau, même si ce n'est pas de façon consciente. Soda, shampoing, modèle automobile, proposition de pari, tout cela y rentre et n'en sort pas avant plusieurs mois, comme l'ont constaté le professeur Didier Courbet, qui est professeur de sciences de la communication en France, et son équipe de psychologues étudiant l'impact des médias sur notre comportement. Monsieur Courbet s'est ici intéressé à l'effet des pop-up, ces petites fenêtres colorées qui s'activent automatiquement et auxquelles nous finissons par ne pas prendre en garde quand nous ne luttons pas activement pour les éliminer de notre champ visuel. Des stimuli du même type sont les bannières publicitaires généralement affichées en haut de la page. 400 volontaires ont été testés de façon simple. Ils devaient naviguer sur Internet à leur guise et de telles fenêtres publicitaires leur étaient envoyées à intervalles de temps aléatoires, comme dans la vraie vie. Ensuite, ils étaient interrogés pour savoir s'ils s'étaient rendus compte qu'on leur vendait des produits et lesquels. Verdict, ils n'avaient rien vu, supposément, mais leur cerveau, lui, avait tout retenu. 6 jours, puis 3 mois après cette phase d'amorçage, les sujets étaient restés en leur présentant les produits correspondants. Ils devaient les identifier le plus rapidement possible et exprimer leurs intentions d'achat. Les mesures ont montré que leur temps de réaction était raccourci, preuve que leur cerveau avait gardé une empreinte des marques et de leur support visuel, de sorte que la présentation du produit n'avait qu'à s'emboîter dans ce moule préalablement imprimé.
Oui, ça serait un peu mal pris si j'achèterais un véhicule quand j'ai pas de permis de conduire.
Là, t'aurais des problèmes.
On va pouvoir te vendre quelque chose. C'est pas un véhicule, mais ça va être autre chose.
J'ai pas conduire. Ouais.
Peut-être une planche à roulettes, quelque chose comme ça.
Ouais, je vais te tuer. Là.
Les intentions d'achat, logiquement, étaient elles aussi augmentées, et ça jusqu'à 3 mois après l'exposition au pop-up en question. Quoi qu'il arrive, même si nous pensons être à l'abri de l'influence des marques, notre cerveau en garde donc l'empreinte et crée un lien de familiarité à notre insu. Que faire de cet encombrant partenaire qu'est notre cerveau? Le ménager, le traiter avec respect, ses couleurs et ses bruits dont nous sommes perpétuellement assaillis ne sont pas anodins ni sans effet sur notre vie psychique. Ils créent une pollution omniprésente que nous avons cru pouvoir ignorer, mais qui se rappelle à notre bon souvenir.
Ouais.
Alors, c'est difficile d'aller à l'encontre de ces recherches.
Mais c'est vrai que ça reste quelque part. Là, la publicité est tellement omniprésente qu'il y a quelque chose qui reste. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement prêt à acheter, mais éventuellement, on va avoir un préjugé favorable.
On va s'en rappeler,
On connaît toujours aussi les logos de compagnie. C'est surtout ceux qui sont réussis et qui restent dans l'imaginaire. On la voit, puis...
Comme McDonald's.
Oui, Nike, n'importe laquelle. Ça reste... On identifie automatiquement le produit à leur...
Si un jour on a besoin d'un tel produit, ben là, tu vas voir que le logo va te venir en tête.
Ce qu'on dit en anglais, le top of mind, là, ça va arriver. Ben, merci beaucoup, Pierre. Merci, Gisèle, pour votre participation. Donc, le sujet de la psychologie de la publicité à Folie Douce.
Figé sur un écran, ton regard a croisé le mien. Choisir le lieu du premier rendez-vous, voudrais-tu bien m'en laisser le soin? Je te propose une idylle sans chichi ni bling bling, en osmose, en sicile. Faut que je titille ton pistil, tant pis si je te brusque. Je veux sculpter ton buste, tatouer ton visage dans sur mon prépuce. J'ai pas un radis, mais je connais le physio à l'entrée du paradis. Non, je te baratine pas, tu es ma Ève. Je suis ton Wally, t'es la belle Jasmine. Et moi, Prince Ali, j'ai pas le permis, mais on peut faire un rallye. On parlera culture en terrasse à Bali. Je t'invite dans mon terrier, ramène tes balis. Si l'on s'ennuie, on pourra fonder une famille. Je ne voudrais pas t'importuner, ni passer pour un homme torturé. C'est vrai, je ne suis pas bien fortuné, et le désir c'est dur à formuler. Donc désolé si je m'emporte, je voudrais juste prêter main forte. Il se pourrait qu'ensemble on s'en sorte. Désormais plus rien ne m'importe à part toi. Je t'aime du bout des doigts. Je t'en prie, réponds. Je suis un poil immature, mais j'ai pris le bonheur en filature. Tu m'as l'air d'une fine nature, vas-y griffe mes épaules, grave ta signature. Je t'offrirai des tics en guise de boucle d'oreille. Pour notre lune de miel, on s'enlacera nu sous un essaim d'abeilles au soleil. Si tu préfères les bagues, je deviendrai orthodontiste. Hurlerai mon amour à en faire péter les vues maîtres. J'irai cueillir des fleurs dans le jardin des délices. Ornerai mon gland d'une rose en l'insérant dans mon urètre. Je ne voudrais pas t'importuner, ni passer pour un homme torturé. C'est vrai, je ne suis pas bien fortuné, et le désir c'est dur à formuler. Donc désolé si je m'emporte, je voudrais juste prêter main forte. Il se pourrait qu'ensemble on s'en sorte. Désormais plus rien ne m'importe à part toi. Fort cadenassé, largué depuis mon jet privé sans place assise dans un sac de couchage au sommet d'un glacier en gémissant des psaumes sur l'autel d'une église. Non, ce que je dis n'est pas malsain, je t'ai dans la peau. Tu vois, c'est pas martien, t'es ma cruelle. Je suis ton dalmatien, réponds si t'es là. Je m'appelle Sébastien.
Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Ghislain Malleau, les chansons oui. qu'on a entendues cette semaine en début d'émission, Ma voiture volante.
De Claude Bégin.
On a pu entendre Le manque de confiance en soi.
Oui, d'un petit jeune, Robert Charlebois.
Ben oui, le plus récent album, son 25e, je pense.
Oui, oui.
On a écouté en début de, en fait, dans la deuxième demi, Femme de chambre.
De Joe Wedin et Jean Felzine.
Et à l'instant, Du bout des doigts.
D'Hippocampe fou.
Voilà, c'est, merci beaucoup pour votre choix musical merci. À toi et à Pierre. Merci pour ta participation. Merci Pierre Laporte pour les blocs Espresso.
Bien
où tu nous as parlé de psychologie de la publicité. Merci beaucoup pour ta mise en onde également de l'émission Folie douce. Nos invités en début d'émission, Stéphanie Martel et François Babin, nous ont expliqué ce que c'est le Rockfest pour la santé mentale. Merci d'avoir été là. On a eu notre collaborateur en début de deuxième demi, Carl Boulian, qui nous a présenté la deuxième partie de son sujet, le trouble obsessionnel compulsif. C'était donc l'émission Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. We'll